Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce studio pour Radio Foot International, bien sûr, et pour évoquer la Ligue des Champions. Et cette soirée de barrage retour. Bonjour Hervé Penaud, vous faites la voix.
Bonjour, quel plaisir, mais j'adore cette musique. Donc hop, ça me met tout de suite dans l'ambiance.
Ah oui, bah ça met tout le monde dans l'ambiance. Bah, je vais vous présenter les autres artistes du jour. Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous voulez pas chanter avec
non,
Hervé?
Non, je chante pas aussi bien qu'Hervé.
Je peux recommencer. La la la. C'est beau, hein?
Oui, ça, c'est Laurent qui juge, hein, parce que Laurent Salerno, le maestro. Ouais. Si ça va pas d'ailleurs, il vous coupera le micro. Bon, on recommence. Avec les titres de cette émission, un Real impérial à Madrid et Kylian Mbappé triple buteur pour éliminer une équipe de Manchester City méconnaissable. Les tenants du titre retrouvent de l'inspiration sur la scène européenne, mais on se demande ce qui arrive à Pep Guardiola, éliminé avant même les huitièmes de finale, ce qui est inédit. Le carton plein des clubs italiens durant ces barrages, 3 sur 3 éliminés. Le Milan AC, puis l'Atalanta et hier soir la Juventus de Turin. Les journaux italiens parlent de disastro. Matteo Cioffi tentera de nous expliquer pourquoi, perché y a-t-il eu ce désastre. Le football français au plus bas. Les échanges entre président et club éclairent les luttes d'influence et le choix hasardeux des diffuseurs du championnat. L'un des deux, aujourd'hui d'ailleurs sur le point de se retirer, ou en tout cas qui ne paye plus, une catastrophe se profile, à moins d'un miracle. Encore un, et nous essaierons de comprendre ce qui se passe dans ce milieu très fermé entre présidents. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Les invités, vous les connaissez donc. Radio Foot, c'est parti.
L'ouverture du score de Kylian Mbappé sur une magnifique ouverture là, et la défense de Manchester City qui s'est fait piéger. C'est bien fait avec Vinicius, maintenant sur le côté droit, le ballon pour Rodrigo dans la surface de réparation, Mbappé, le petit crochet, oh le but de Kylian Mbappé, oh là, quelle action du Real Madrid, ils ont tous touché le ballon, et maintenant ça fait 2-0 pour le Real et pour Kylian Mbappé. Troisième but du Real Madrid et c'est le hat-trick pour Kylian Mbappé, quelle soirée pour lui alors qu'on l'avait vu sortir juste avant. Et Madrid qui va bien sûr se qualifier pour les huitièmes de finale. Et vous avez un grand numéro 9 au Real Madrid qui fait vraiment une très belle prestation ce soir.
Avant le coup d'envoi, ici même dans cette émission, on avait osé imaginer un peu de suspense, que Manchester City avait encore une chance de se qualifier, même à Madrid, même sur la pelouse du champion en titre de cette compétition. Mais les Merengues retrouvent des forces décuplées lorsque retentit cette fameuse petite musique.
Non,
eux aussi,
non,
ils l'aiment bien,
c'est beau, ouais.
N'est-ce pas, Hervé? Ça chatouille leurs oreilles, apparemment, leurs pieds et tout le reste. Et ils ont assommé les Citizens. A-t-on vu? Alors, j'ai envie de vous poser la question, Jean-Philippe. Est-ce qu'on a vu un grand match hier soir?
Ben non, parce que les circonstances du match, finalement, ont tué le suspense. Parce qu'au bout de 10 minutes de jeu, quand...
grand ou beau match?
Oui, évidemment, c'est digne d'une finale, forcément. Mais on n'a pas eu un match avec... un Real City, c'est une finale de Ligue des Champions. Enfin, on sait avec la nouvelle formule qu'on a ça maintenant toutes les semaines. Mais donc, ça banalise un peu. Mais c'était pas le... Enfin, il n'y avait pas l'émotion et l'enjeu parce que City est au fond du trou et que le premier but a tout de suite à écraser le suspense. Donc forcément, comme City n'avait pas les ressources pour aller chercher ce score, bah finalement ça a un peu écrasé le suspense et ça n'a pas été un match très très émouvant en fait.
Hervé Penaud, est-ce que c'était trop facile finalement pour le Real Madrid? Alors peut-être plus facile qu'au match aller.
Ils se sont rendus le match facile. Parce que marquer aussi vite, et puis avec Mbappé en feu, bah, c'est grâce au Real Madrid, grâce à la performance du Real Madrid. Il ne faut surtout pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'on a un petit City. C'était un petit City, rappelons-nous, au Parc des Princes. Hein, quand ils mènent 2-0, je ne sais pas ce qui se passe, ils explosent totalement. Alors, on avait cru 4-2. Qu'avec une victoire contre Newcastle, peut-être qu'il y avait un rebond. Mais en fait, c'est une équipe qui est morte en ce moment. Franchement, il n'y a plus rien. Pour le très haut niveau, je parle, hein, parce qu'ils seront capables de battre certaines équipes anglaises. Mais là, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Même l'attitude de Pep Guardiola, je l'ai trouvé, lui, qui d'habitude est toujours bagarreur, rageur. Là, on avait l'impression qu'il n'y a plus de solution. Quoi. C'est très compliqué.
Il avait même avant le match un discours défaitiste. Ouais. Et donc, le problème du discours défaitiste, c'est que ça peut permettre de ne pas faire figure de favori, de se ressaisir. Sauf que quand on se retrouve mené, quand on a bien insisté sur les circonstances, Constance, on n'est pas bon, je suis pas au niveau et tout ça, enfin, qui était le discours qui tenait avant, bah là, ça aide pas à se ressaisir.
Vous parlez de Pep Guardiola, alors on va l'écouter, l'entraîneur des Citizens, hein, fut un temps le meilleur entraîneur du monde, mais on a l'impression que là, il manque, il a plus les armes véritablement pour être au niveau de ce titre ou de ce qualificatif.
We could not defend well the movement that he reacted.
Nous n'avons pas su bien défendre sur les déplacements, notamment ceux de Kylian Mbappé, qui a su se libérer et attaquer les espaces. Cela a vraiment été compliqué pour nous. Donc oui, la meilleure équipe a gagné, elle le mérite. Nous avons toujours réalisé de bonnes phases de groupe en Ligue des Champions par le passé, atteignant les finales, en gagnant et en perdant, mais aussi des demi-finales et des quarts de finale. Cette saison, cependant, dans toutes les compétitions, nous n'avons pas été à la hauteur. Donc oui, le Real mérite sa victoire. Il faut juste apprendre, accepter et aller de l'avant.
D'abord, avant de parler de l'équipe dans son ensemble, Pep Guardiola, est-ce qu'il vous étonne, Bruno Constant, quand on entend ces mots-là? Parce que c'est pas trop son style d'habitude de dire il faut accepter la situation, accepter la défaite, accepter le contexte.
Non, il est lucide sur la différence entre ce Real Madrid-là et son équipe de City, qui ressemble plus du tout à l'équipe de City qui a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, tout simplement. Mais il accepte ça depuis déjà quelques mois. Ouais. C'était la 13e défaite depuis le mois de novembre City.
On se demande jusqu'où ça va aller.
C'est inimaginable. Déjà, à l'époque, on se demandait combien de temps ça va durer. Ouais. C'était 4 défaites, et puis après une 5e, et puis après, tout s'enchaîne.
Est-ce qu'il y a de la mensuétude parce que c'est Pep Guardiola? Par rapport à tout ce qu'il a... Alors, je parle de ses dirigeants. Même les autres, par rapport à ce qu'il a apporté au football, par rapport à ce que Guardiola a apporté à ce club, c'est-à-dire 5 titres en 6 ans de champion d'Angleterre.
Ben, heureusement qu'on a de la mensuétude pour quelqu'un comme Guardiola.
Dans le monde du foot, il y en a de moins en moins de la mensuétude.
Non, il reste sur 4 titres consécutifs en Première Ligue, ce qui n'avait jamais été réalisé. Il a offert la Ligue des Champions à Manchester City... Pour ce qu'on appelle les nouveaux riches, on met toujours beaucoup de temps à y arriver. On peut demander au PSG, c'est très compliqué. Chelsea, ça a été très compliqué aussi. Donc, il a tellement apporté, et pas qu'à Manchester City. C'est logique que pour une saison ratée sur ses 18 années de carrière d'entraîneur, on peut avoir de la mansuétude. Moi, je pense qu'il était résigné bien avant le match, parce que dès qu'il y a eu l'annonce de la composition d'équipe ce match contre le Real, vous voyez qu'il n'y a pas Haaland, alors qu'il était venu, il était du voyage. Il n'y a pas de
Bruyne. Mais était-il blessé, Haaland, c'est ce qu'on dit?
Ben oui. Il était blessé. Ils espéraient. Pour moi, c'était du bluff. Ils l'ont emmené pour faire croire qu'il aurait pu jouer. Mais vous jouez sans Haaland, vous jouez sans De Bruyne. Vous savez que Rodri, qui est votre meilleur joueur, est toujours blessé.
C'est crampon.
Oui, mais c'est un joueur important d'expérience. Dans un match comme ça il l'aurait aligné quoi qu'il arrive s'il était prêt à jouer. Vous avez laissé partir Walker, homme d'expérience cet hiver. Au bout de 5 minutes, vous êtes mené 1-0 sur une énorme erreur de la défense et du gardien. Et en plus, vous perdez votre défenseur central le plus expérimenté, John Stones. À un moment donné, c'était à l'image de la saison de City, en fait. Il n'a pas eu un seul enchaînement de 2 matchs tranquilles, Guardiola, cette saison, depuis le mois de novembre.
Ce qui est très étonnant, c'est que...
Ils enchaînent les pépins physiques comme jamais une équipe a pu avoir. Hein.
On regarde City couler depuis plusieurs mois, voilà. Alors nous, on est surpris et impuissants, mais on a l'impression que son entraîneur aussi... est impuissant. C'est-à-dire que et même ça se traduit dans son discours. Alors il le prend, il se culpabilise en prenant pour lui la responsabilité. C'est une façon de protéger ses joueurs.
Mais il n'a pas d'autre choix en fait.
Mais en même temps,
quand tu
on a l'impression qu'il n'a pas la ressource.
Mais quand tu regardes l'équipe qui est alignée à Bernabeu, je suis désolé, mais quand vous jouez avec Kuzanov, qui n'a aucune expérience Ligue des Champions, qui joue latéral droit, lui qui est défenseur central, face à Vinicius.
Marmouche qui n'a pas d'expérience
Marmouche
en Ligue des Champions.
Marmouche qui vient d'arriver. Il y avait trois nouveaux joueurs qui étaient arrivés il y a 3 semaines qui débutaient ce match à Bernabeu.
Et Kuzanov, ils l'ont pris pour être à droite, je crois.
Ils l'ont pris pour être axe droit et modifié comme Guardiola, etc.
Cœur, en fait.
Avec Guardiola, il faut savoir jouer à tous les postes.
En tout cas, c'est pas l'équipe de City qui a dominé l'Europe et l'Angleterre depuis 4-5 ans.
Est-ce que c'est une équipe qui n'est pas fatiguée, ils ont tellement gagné à un moment.
Jusqu'à présent, on disait c'est une équipe fatiguée, c'est une équipe essorée, c'est une équipe peut-être aussi vieillie. Parce que Kyle Walker, De Bruyne et tout ça. Non, mais je dis jusqu'à présent. C'est ce qu'on disait pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et on se dit comment vont-ils faire, quoi. Parce que ne pas avoir de ressort. Est-ce que vous pensez que si on avait hier aligné De Bruyne, un De Bruyne comme celui qu'on a vu à Paris, si on avait aligné même Haaland qu'on a vu à Paris ou quoi ?
On les a vus au match aller, il n'y avait pas besoin de match retour, on les a vus au match aller. Moi, je trouve à la fin du match aller,
ils mènent 2-1 et ils perdent 3-2.
Mais ils ont quasiment. Enfin, moi, j'avais peu de chance quand même à Manchester City de s'imposer au Real, parce que même au match aller, on a senti un Real qui était supérieur dès la deuxième mi-temps. Alors, ils ont eu une première mi-temps intéressante.
Souvenez-vous du match aller. Match aller, ils perdent 2 joueurs sur blessure dès la première mi-temps. Ils perdent un troisième qui n'est pas prêt à jouer tout le match, il est obligé de le sortir. Et c'est ça à chaque match, en fait. C'est ça qu'on n'arrive pas à se rendre compte. C'est pour ça qu'il est résigné, c'est pour ça qu'il a ce discours-là aussi. C'est que depuis le mois de novembre, il y a des blessures, mais en cascade.
Oui, mais le Real aussi a beaucoup de blessures.
Oui, mais pas dans les dimensions de Manchester City depuis le mois de novembre.
Ils n'ont pas eu de défense pendant très longtemps. Alors, c'est pour ça qu'ils étaient en barrage, d'ailleurs.
Pendant 4 mois. C'est depuis 4 mois que c'est comme ça.
Mais, et puis les blessures. Effectivement, il y a des circonstances, il n'y a pas de chance et tout ça, mais c'est aussi la responsabilité d'un entraîneur de peut-être d'en demander un peu moins à l'entraînement à certains moments, de savoir quand il faut doser et de préparer aussi un banc qui est capable de
l'exigence. Quand tu joues le titre en première ligue,
City,
et la Ligue des Champions,
c'est pas un petit club,
c'est
pas un petit club qui a pas de moyens.
Vu ce qu'ils ont dépensé au mercato d'hiver,
il a toute la responsabilité du sportif. Il n'y a pas beaucoup de clubs où l'entraîneur peut décider absolument du recrutement. C'est un des derniers qui a la mainmise totale sur la politique sportive du club. Dans beaucoup d'autres clubs, il y a un directeur sportif, il y a des recruteurs et tout ça. On n'en même plus leur avis aux entraîneurs.
C'est pas Guardiola qui décide de tout.
Il
y a un duo qui a été mis en place, c'est Begiristain et lui, et ils fonctionnent en duo.
Mais on ne lui impose pas un joueur.
Récemment, il a donné une interview, il a expliqué que un des tournants de la saison aujourd'hui de City, c'est l'été 2023 après le triplé, où c'est un été très particulier, où ils se rendent compte qu'ils doivent renouveler l'effectif, mais il y a tellement de joueurs qui ont été bons, qui demandaient à être prolongés et qui sortaient d'un triplé, qu'ils n'ont pas su faire le renouvellement. Ils n'ont pas anticipé.
On voit
et
ça
ils
en
ont
sélection
aussi
hein,
l'été
en général
dernier.
D'une Coupe du Monde sur l'autre.
C'est difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Parce que vous, effectivement, quand vous avez gagné avec des joueurs, c'est dur de leur dire le lendemain, finalement, j'aime beaucoup.
Mais c'est vraiment la responsabilité d'un manager, effectivement.
Mais d'un autre côté, heureusement, Guardiola n'est pas trop pointé du doigt, parce que vous parlez quand même du meilleur manager, peut-être, je ne dis pas de l'histoire du foot, mais en tout cas, un des plus marquants de l'histoire du foot. Alors si, parce qu'il a perdu 13 matchs, même 13 matchs, c'est peut-être énorme. Mais à un moment, il est comme tout le monde, il peut y avoir des périodes un peu moins bonnes.
Revenons à nos moutons vainqueurs et nos moutons blancs quand même. Avec
Kicks.
Voilà, exactement. Kylian Mbappé, tellement attendu, notre kiki national. Il a inscrit un magnifique triplé et ballon dans une main, titre d'homme du match dans l'autre. Il semblait serein après cette rencontre.
Mais c'est clair qu'au début, à Madrid, c'était pas trop ça. Je pense que je me cherchais un petit peu. Et je pense que j'ai su inverser la tendance. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on voit un meilleur visage. Mais comme j'ai dit, c'est la deuxième partie de saison où on est jugé. Je le disais quand je jouais pas très bien. Je le dis encore aujourd'hui, je joue très bien. Il faudra gagner des titres, il faudra être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres.
Hervé, il a tout compris finalement, Kylian Mbappé. Il sait que du côté du Real, il faut être prêt au mois de mars.
C'est exactement ça. Il n'y a pas besoin d'être prêt avant. Mais rappelons-nous quand même, ce Real a été battu à Lille.
Prêt avant, en tout cas ici, jamais. Mais il s'est beaucoup fait taper sur les doigts. Nous, on croyait à ce temps d'adaptation nécessaire. On a bien vu d'autres joueurs dans d'autres clubs.
On parle de Kylian Mbappé. C'est un monstre. À un moment, vous avez des périodes moins bien. Ça arrive. Le football est ainsi fait.
Les buteurs,
C'est vrai qu'à un moment, on se posait des questions. Quand est-ce que ça va redémarrer? C'est vrai qu'on s'est posé des questions. Faut pas se mentir.
Ça a duré longtemps.
Ça a duré longtemps, mais il marquait des buts. Mmh. Attention.
Aussi.
C'est-à-dire que c'est comme l'année dernière, quand j'avais de nombreux débats où on expliquait, à part marquer des buts, il fait quoi? Il marque des buts, c'est déjà pas mal. Quand vous marquez plus de 40 buts dans une saison, ça vous change le cours d'un match. Et là, on a retrouvé le Kylian Mbappé avec des jambes, l'élimination sur le deuxième but, là, dans la surface de réparation. incroyable. La frappe de balle, c'est pas une frappe à la Kylian Mbappé. Il frappe assez peu à ras de terre comme ça. Et là, j'ai la sensation qu'il trouve aussi de nouvelles choses. Il a essayé de progresser. Il a essayé de mieux comprendre le jeu du Real. C'était pas simple d'arriver dans un effectif qui avait aussi tout gagné, avec des joueurs qui ont des égos surdimensionnés. Vous voyez arriver quelqu'un qui prend toute la lumière. C'est pas facile. Même si vous l'aimez bien, vous êtes gentil
avec lui. Il y a une donnée basique, c'est qu'il est physiquement. On voit qu'il est en meilleure forme.
Ça se voit. Non, mais on connaît tous la saison qu'il a eue l'année dernière, l'Euro en plus, la blessure à l'Euro. Enfin, il y avait aussi beaucoup de circonstances atténuantes, même si quand on est payé ce qu'il est payé, quand on attend ce qu'on attend de lui.
C'est pas l'argent qui fait courir. Hein.
Non, bien sûr, mais par contre, justement, ça frustre les gens et ça frustre les attentes.
Mais surtout, à partir du moment où lui annonce tout ce qu'il annonce, parce que vous avez aussi un joueur qui assume. C'est pas simple quand vous êtes.
Maintenant, il veut gagner des titres, mais on se souvient de lui à la fin de la Coupe du Monde.
Faut pas oublier quand même qu'on était en barrage.
Et qu'un
City Real en barrage de la Ligue des Champions,
ça vous met en
jambes. En début de saison, ça n'est pas, on l'aurait peut-être pas tous donné comme
c'était
ça.
C'était plutôt une finale.
Donc voilà, c'est que deux clubs qui ont eu du mal à embrayer. Alors là, on a l'impression que le Real, tout va beaucoup mieux. Ok.
Mais en
Liga, ils se font quand même bien concurrencer. C'est pas une saison simple pour le Real quand même encore.
Carlo Ancelotti, évidemment heureux de voir son joueur aller si bien. Et il croit même que l'avenir lui sourit. Écoutons-le.
Il a la qualité pour atteindre le niveau de Cristiano, mais il doit travailler. Il vient à peine d'arriver dans ce club. Cristiano a mis la barre vraiment très haut. Mais Kylian a beaucoup de qualité. Il est motivé. Il peut atteindre le niveau de Cristiano, mais ce ne sera pas facile. Il lui faut encore travailler.
Bruno, est-ce que c'est un cadeau à un entraîneur qui fait une telle comparaison et qui dit ça à son joueur, même le meilleur hier soir ?
Mais il n'y a même pas besoin de Carlo Ancelotti pour faire la comparaison. À partir du moment où Mbappé allait rejoindre le Real Madrid, la comparaison, elle est légitime et c'est
logique. Il y en a eu beaucoup avant Cristiano de bons éléments dans cette équipe.
Il y en a eu beaucoup, mais des joueurs potentiels Ballon d'Or, avant Ronaldo, entre le départ de Zidane et Ronaldo, et l'époque des Galactiques et Ronaldo, il y avait eu un gouffre énorme. Il ne se passait plus rien.
Et
Ronaldo a duré pendant 9 ans.
Et l'époque des Galactiques n'est pas une époque où le Real gagne.
Où le Real gagnait, mais il y avait beaucoup de Ballon d'Or, donc beaucoup de stars. Et donc c'est légitime. Après, la pression elle est énorme, évidemment, parce qu'il a 26 ans, toujours pas gagné de Ballon d'Or et de Ligue des Champions. Et il sait très bien qu'en venant au Real Madrid, il va se rapprocher de ces trophées-là. C'est aussi pour ça que le Real Madrid est fort. Et le Real Madrid, c'est un cas à part, parce que de tous les candidats à la Ligue des Champions, de ceux qu'on mêle souvent, Liverpool, le Barça, le Bayern, voire le PSG, toutes ces équipes-là, elles doivent bien jouer. Elles ne peuvent pas défendre en bloc comme fait le Real Madrid. Ce que fait le Real, par exemple, au match aller, défendre en bloc bas et jouer en contre, ça, c'est inimaginable pour le Barça, même pour le PSG, pour Liverpool. C'est des équipes qui doivent attaquer. Si vous attaquez pas, on veut pas gagner des titres sans bien jouer. Au Real Madrid, on est capable d'assumer ce côté-là. Et ça, c'est un Real Madrid qui est assez nouveau et dans lequel Mbappé, côté pragmatique de ce Real Madrid, va convenir à Mbappé. Parce que Mbappé, ce qu'il veut, c'est les trophées maintenant. Que l'équipe joue bien ou pas, il s'en fout. Là, il a 26 ans, il veut gagner le Ballon d'Or, il veut gagner la Ligue des Champions, il veut gagner plusieurs Ligues des Champions.
Donc, Jean-Philippe,
c'est la meilleure plateforme pour arriver à cet objectif-là.
Il y a trop de pression sur Kylian Mbappé, ou finalement, c'est ce qu'il aime aussi un peu.
Non, mais ça fait depuis qu'il a 17 ans, il sait qu'il est promis à ce destin-là.
Peut-être
il vit avec. Non, mais il a vraiment.
17 ans, oui, champion de France avec Monaco.
Dans la lumière à ce moment-là. Et depuis ce moment-là, ça fait presque 10 ans maintenant qu'il sait qu'il doit gérer la pression. Il a peu d'erreurs hein, quand même hein, par rapport à il était exposé quand même à énormément de choses, on l'a encore vu à l'automne.
Il est toujours exposé.
Le moindre faux pas lui est interdit, donc qu'il y ait des petits moments de moins bien comme à l'automne sportivement, ça peut se comprendre. Après, la force d'un grand champion, c'est de toujours se relever et de s'accrocher, et là-dessus il est impressionnant quand même, parce que et on l'a entendu là dans sa petite interview, il fait montre d'une grande confiance en lui. Ça pourrait presque passer pour de l'arrogance s'il n'était pas si fort.
Il a une forme d'arrogance, de toute façon, mais qu'il assume.
Mais
qu'il
c'est celle des champions, c'est normal.
Mais on se souvient, après la Coupe du Monde en 2018, où il disait « Oui, bon, c'est bon, la Coupe du Monde, maintenant, moi, je veux gagner d'autres titres. »
Bien sûr.
Et c'était effectivement cette course permanente.
Voilà. Parce qu'il a commencé très jeune, parce qu'il y a de plus important, la Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans.
Avant, il est champion de France, quand même.
Oui, mais... Pardonnez-moi que le championnat de France soit moins important.
Non, mais
que
il alors, je ne sais pas pourquoi
il a commencé par le plus fort. La Coupe du Monde a 18 ans.
On comprendra tout à l'heure, je pense. Autre résultat de la soirée, le Paris Saint-Germain sans pitié face à ce petit poussé qu'on a tellement aimé voir. Brest corrigé 7-0 au Parc des Princes. Clap de fin donc pour les Pirates. Le BVB Dortmund est passé, lui, en éliminant le Sporting Lisbonne 0-0 au retour d'un 3-0. On se souvient du côté du Portugal. Guirassy n'a pas marqué, mais il reste le meilleur buteur pour
penalty,
l'instant
hein.
De cette... Oui. Mais bon, ça aurait pu lui faire 11, mais à 10, il est toujours au-dessus des autres. Il faut dire que ses concurrents étaient déjà qualifiés en 8e, donc on verra au tour prochain.
Mbappé revient.
Oui, oui, mais ils vont tous revenir là. Et puis, il y a ce disastro avec un strike parfait, hein, on dit en bowling, pour les clubs italiens qui étaient en barrage.
C'est pas fini, Simon Mignolet qui vient peut-être...
Les Belges du club Bruges qualifiés pour les huitièmes de finale, pas favoris face à l'Atalanta Bergame.
Expulsion di Théo Hernandez, non ci credo. In effetti gliela toccata.
Le Feyenoord réalise un énorme exploit. Allez, chercher, arracher sa qualification à San Siro, énorme.
È finito qua, la Juventus va a casa con un 3-1 e la terza italiana. Dopo il Milan Atalanta ieri ad abbandonare la
scena. L'exploit du PSV Eindhoven de Peter Bosch. La Juve est éliminée.
L'Italie faisait pourtant partie des privilégiés de cette nouvelle formule de Ligue des Champions. 5 clubs sur la ligne de départ, quand certains en ont moins. La France en avait 4 notamment. Et à la veille du tirage au sort des 8e de finale, eh bien, il n'en reste qu'un. L'Inter, qui a terminé 4e parmi les 8 qualifiés automatiquement. Alors, Bologne a été écarté avant les barrages, 28e, mais bon, c'était un peu un début d'une histoire pour cette équipe de Bologne. Ça peut paraître un peu plus logique. Par contre, en barrage, les 3 clubs présents sont sortis. D'abord, le Milan AC, éliminé par le Feyenoord des Pays-Bas, puis l'Atalanta, pardon, vous l'avez entendu, hein, les Belges de Bruges. Et hier, après prolongation, la Juventus, la Juve dehors. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Alors, je ne sais pas si vous avez la gueule de bois, mais j'imagine qu'aujourd'hui, les tifosi et même vos collègues italiens sont sous le choc, Matteo.
On peut dire qu'on a vécu des jours meilleurs du point de vue football. Hein.
Ouais, ça c'est sûr.
C'est pas la felicità, comme dit la fameuse chanson.
Felicità.
Bon, attention, Hervé va se mettre à chanter. Voilà,
vous avez même un chanteur dans le studio, c'est parfait. Écoutez, non, l'état d'esprit des Italiens ressort en lisant la presse transalpine ce matin, où partout c'est une pluie d'accusations. Le Corriere della Sera a déclaré que si on joue de cette façon, vaut mieux l'année prochaine se présenter avec 4 et non pas 5 équipes en Ligue des Champions. Je confirme que le terme qui circule le plus dans les médias, c'est « disastro ». Gazzetta dello Sport l'a imprimé ce matin sur sa première page. « Eurodisastro ». Le Corriere dello Sport, de son côté, a évoqué l'histoire avec ce titre « Waterloo », synonyme donc de défaite totale. Place ensuite au poète de la rime sur Tutto Sport, qui est le journal sportif de Turin, qui à son tour s'est présenté avec un virelangue qui récit « Motta che botta, motta che il cou ». Et voilà.
Alors Matteo, prenons ces 3 clubs, on va faire un peu une énumération, mais cette Juventus, sortie donc par le PSV Eindhoven, certes, champion des Pays-Bas hein, la saison dernière, et on l'avait suivi, ils étaient déjà dangereux, mais c'est sûr que les Bianconeri de Thiago Motta dehors, on s'étonne.
Oui, peut-être on s'étonne, mais à la fin, si on regarde des matchs, les Néerlandais ont absolument mérité de passer le tour. Les Bianconeri, dans l'ensemble, ont souffert, mais même s'ils ont eu la chance de remporter la qualification, si le poteau n'avait pas nié à Vlahovic la joie du but. Quoi dire, le match d'hier reflète la saison de cette équipe qui souvent entame bien la rencontre, mais qui le long de du match, tant à s'égarer et à laisser l'adversaire gérer le jeu. C'était le cas même hier soir avec une deuxième mi-temps de totale souffrance pour les Torinois. Doit pointer vers Thiago Motta. Ses choix sont souvent contestés. Sur le match d'hier, l'opinion publique l'accuse d'avoir retardé ses remplacements. Colomboigny devait sortir beaucoup plus tôt et non à la fin du temps réglementaire. Même discours pour Koppmeier. Et puis une question qui continue à rebondir et qui concerne Khéphren Thuram. Pourquoi il n'est pas encore titulaire fixe? Hier, le Français est rentré seulement à la 77e minute.
Et il a marqué
positivement. Ouais. Fallait y penser plus tôt. Hein.
Ben oui. Est-ce que ça vous surprend cette Juve où on l'a vu quand même, on en parle ici et d'ailleurs avec Matteo dans cette émission, en championnat c'était laborieux et ça commençait à aller mieux.
Ben oui, puis en fait là on voit que là ça tombe on va dire dru sur les clubs italiens, et la Juve en plus particulièrement. Parce que le reste, finalement, trois Anglais, trois Allemands, c'est logique, sur les qualifiés. Enfin, voilà, on attendait trois Italiens. Là, il n'y en a qu'un. Bon, mais... Donc, on a l'impression... Mais en fait, il ne faut pas oublier que c'était des barrages. Et c'est le point intéressant de cette nouvelle formule, parce que sur le tableau, on pensait que ça serait facile, finalement, d'éviter les barrages sur le papier en début
cas,
de saison.
En tout cas, possible.
Voilà.
Facile, peut-être.
Et là,
pas,
finalement,
possible.
On se rend compte. Mais il n'y a pas que les Italiens. Le Bayern s'est passé très tout près. Hein. On s'est retrouvé le PSG, bon bah ça rigole parce qu'ils sont tombés contre Brest, mais ils étaient quand même eux aussi en barrage. Hein, donc voilà. Donc en fait, il y a un certain nombre de grosses équipes qui étaient en risque. Voilà. Donc la Juve, elle n'est pas souveraine, elle était en risque.
Il faut rappeler quand même que la Juve, ils finissent 20e du classement de Ligue des Champions. Donc ils font déjà une campagne de Ligue des Champions qui est catastrophique.
Mais on en a vu beaucoup des grands, en tout cas grands au moins par leur histoire.
Et c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle formule, c'est que l'automne, qui n'est pas le bon moment pour les gros clubs, parce qu'ils jouent...
Les petits en profitent.
Voilà, ils jouent la deuxième partie de la saison, mais ils sont en risque parce que s'ils ne sont pas assez performants pour éviter ces barrages, ben voilà, ça peut leur tomber sur le coin de la tête.
Alors à Bergame, l'Atalanta, que l'on voyait régulièrement avec plaisir maintenant en Ligue des Champions, était sortie par le FC Bruges. Que s'est-il passé à la DA? Alors l'entraîneur Gasperini a quand même jeté de l'huile sur le feu en désignant Ademola Lookman, le fameux homme qui avait quand même marqué un triplé lui aussi en finale de la Ligue Europa l'an passé. Il l'a jeté en pâture, il l'a accusé d'avoir justement raté un pénalty et finalement de la faillite de toute une équipe. Est-ce que c'est trop dur selon vous, Matteo? Qu'est-ce qu'on dit en Italie sur ça?
Ben, on est tous d'accord, Gasperini s'est laissé aller à une déclaration de trop et l'attaquant africain a justement répondu le lendemain, c'est-à-dire hier, en jugeant ses affirmations comme irrespectueuses et qui l'ont beaucoup blessé. Il faut dire que ces deux personnages sont essentiels.
Le meilleur joueur du continent africain de la saison dernière, Ademola Lookman.
Mais ces deux personnages sont essentiels pour le club de l'Atalanta. Donc le club devra faire en sorte de recoudre au plus tôt cette déchirure parce que il faut se relancer. L'Atalanta est encore en course pour le Scudetto. On ne peut pas gagner un Scudetto quand le meilleur attaquant et l'entraîneur se disputent de cette façon.
Mais Matteo, est-ce que c'est habituel la part de l'entraîneur comme ça de parler d'un de ses joueurs comme ça, enfin de Gasperini? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu? Parce que j'ai rarement vu quelqu'un attaquer son joueur de cette manière-là. Hein.
Bah oui, Gasperini, c'est quelqu'un qui a un caractère très chaud, on le connaît désormais très bien. Mais honnêtement, c'est la première fois que je l'entends accuser de cette façon un de ses joueurs. Ça a été vraiment un geste assez étrange qui à la fin a bouleversé un peu toute l'opinion publique parce que Lookman, faut pas oublier que c'est le mec qui a réalisé un super triplé il y a 6 mois qui a permis à l'Atalanta de gagner son premier grand trophée européen.
Mmh. Voilà pour ce qui est donc de l'Atalanta. Alors vous m'avez dit, Matteo, le club devrait organiser peut-être une rencontre entre ces deux hommes pour finalement ramener la paix dans le vestiaire.
Oui, aujourd'hui le président Percassi s'est présenté devant l'équipe et a fait un discours pour soulager tout le monde, pour leur confirmer la confiance dans toute l'équipe. On envisage maintenant face à face entre Gasperini et Lookman, mais pour l'instant aucune nouvelle à ce propos.
Oui, bon, ils prendront leur temps que les esprits.
Est-ce qu'on peut dire quand même, parce que moi je suis pas toujours forcément d'accord sur ce débat-là, qu'un entraîneur, c'est le premier responsable. C'est lui qui met en place une stratégie, une tactique, un travail durant la semaine dans l'entraînement, qui désigne ses tireurs en fonction de ce qui se passe à l'entraînement, de ceux qui se sentent le plus à l'aise. Et qu'à un moment donné, quand il y a une hiérarchie qui est faite d'un, deux, trois, numéro un, numéro deux, numéro trois, il faut la respecter.
Des tireurs de pénalty.
C'est pas le seul entraîneur qui se plaint quand un joueur bouscule la hiérarchie pour faire passer son ego avant les tireurs désignés. Moi, j'ai souvenir de plein d'entraîneurs, notamment en Angleterre. Je me souviens de Wenger qui se plaignait de ça. Notamment, il disait quand un joueur subit la faute, il ne tire pas le pénalty. Il nous ramenait à chaque fois des statistiques qui montraient que.
On l'a souvent vu hein, dans les matchs.
Et je me souviens que Nasri avait marqué un pénalty parce qu'il avait subi la faute. Il avait le sourire un peu jaune puisqu'il savait qu'il allait se faire remonter les bretelles par Wenger, ce qui était arrivé. Et qu'à un moment donné, un joueur ne peut pas prendre forcément la liberté de bousculer la hiérarchie.
Il y a une différence entre recadrer son joueur dans le vestiaire parce qu'il n'a pas respecté les consignes ou le jeter en pâture publiquement devant les médias.
Mais ce n'est pas le premier Gasperini à le faire.
Ouais.
Mancini, Mourinho, le
faisait. Ça, c'est une faute professionnelle parce qu'après, il va devoir gérer de recoller les morceaux dans son vestiaire. Enfin voilà, c'est public.
C'est pas un jeune entraîneur, Gasperini.
Voilà, mais il a perdu son sang-froid.
Bah, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr
qu'il a perdu son.
Il avait trop d'ego.
C'est son caractère.
Lookman a argué du fait que lui, en fait, il ne devait pas, a priori, effectivement, tirer ce penalty. C'est ce qu'il expliquait en tout cas dans son message sur les réseaux sociaux. Mais que celui qui allait le tirer lui a confié le ballon.
Bon, et moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment un entraîneur, parce qu'on peut dire, c'est pas lui qui devait tirer, et puis on sent dans les propos que ça veut dire un petit peu, bon, je vais lui en parler tout à l'heure. Mais là, arriver à dire d'un de ses joueurs, qui est une des stars de l'équipe, que c'est en gros le plus nul à l'entraînement, c'est pour les tirs de pénalty, je peux comprendre que dès le lendemain matin, toute sa famille, tous ses amis, même des joueurs de son vestiaire, ils disent oh, t'as vu ce qu'il a dit sur toi ? Mais il t'a massacré. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'ego pour entendre dire de la part d'un attaquant de très haut niveau oh, bah, c'est un des plus nuls que j'ai vu à l'entraînement. Bon, les tirs au but.
Vous voyez, Matteo, hein, jusqu'à Paris, ça fait parler cette histoire de pénalty de Lookman et Gasperini. Mais il y a eu aussi, Matteo, Milan, les Rossoneri, éliminés, eux, par une autre équipe des Pays-Bas. Et là, c'est le Feyenoord. Le fautif, tout trouvé, en tout cas pour l'entraîneur de cette équipe, le Portugais, lui aussi au sang chaud, il n'y a pas que les Italiens qui ont le sang chaud, Sergio Conceição, il a désigné alors un homme aux cheveux roses, du coup ça se voit beaucoup, un certain Théo Hernandez qui a été exclu avant la fin. On va d'abord écouter, avant de vous entendre, Matteo, Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il est l'un des hommes importants désormais de cette équipe de Milan.
Nous sommes déçus et en colère. Nous avons manqué de maturité dans cette rencontre. Parce que quand on mène 1-0, il faut continuer à jouer et mettre de l'intensité. En ce qui concerne le deuxième carton jaune de Théo Hernandez, l'arbitre a été beaucoup trop sévère. Dans un match comme celui-là, on donne d'abord un avertissement verbal, avant une prochaine sanction éventuelle. L'expulsion a donc changé la partie. Je le répète, nous sommes sous le coup de la déception et de la colère. À présent, nous devons rester soudés, évacuer cette déception et nous concentrer bien évidemment sur le championnat.
Matteo, qu'est-il arrivé aux Rossoneri dans cette épreuve face au Feyenoord ?
Ça a été une débâcle totale. Oui, c'est vrai, à l'unanimité, le coupable numéro un est le défenseur français.
Mais est-il le seul responsable ?
Voilà, et ça c'est une très bonne question, parce que sur le banc des c'est vrai, dans les 48 heures qui ont succédé au match, on a parlé exclusivement de Théo Hernandez, coupable, la bêtise, tout ça, il va quitter le club à la fin de l'année, hein. Mais puis, on a commencé à réfléchir aussi sur Sergio Conceição, dont les choix, après le but encaissé, se sont révélés contre-productifs, hein. Un sur tous, remplacer l'avancée centre mexicain Santiago Jiménez, auteur de la réalisation qui a ouvert le score, pour faire avancer à sa place Joao Félix dans un rôle qui n'est absolument pas le sien. Donc voilà, c'est pour ça que Conceição à la fin a déclaré le visage de cette élimination n'est pas celui de Théo Hernandez, mais c'est le mien.
Oui, alors en plus, João Félix portugais, hein, on peut voir une petite filiation. Hervé a des doutes sur quel
João
est le rôle.
Félix. Ah oui, non, j'ai beaucoup de doutes sur son rôle, exact, effectivement.
Ça fait longtemps qu'on ne sait pas à quel poste il joue.
On ne sait pas où il joue, comment il joue. C'est un joueur qui était blindé de talent. Non, mais c'est vrai, il avait du talent à 17 ans.
Il croyait, mais il a 17 ans en tout cas.
Ouais, il a choisi de prendre de l'argent à droite à gauche. Il a un gros carnet de chèques, gros content.
Pour le coup, le fiasco,
ça c'est sûr.
C'est pas un fiasco Milan, parce que c'est quelque chose qu'on sentait venir. C'est quand même un club.
Attendez, Feyenoord,
Bah, Feyenoord, franchement, vous les avez joués, Feyenoord,
oui,
cette
saison. Alors on après,
on a parlé pendant la... Feyenoord, ils ont été très très bons durant cette campagne. Certes, ils font une grosse débâcle à Lille, mais à City, ils remontent 3 buts. Ils ont été fantastiques. Ils vont gagner à Lisbonne, où aucun club français n'arrive à gagner, par exemple. Ils ont battu encore qui ? Ils battent déjà le Milan à l'aller, ce qui était déjà une performance assez impressionnante. Ils auraient pu gagner de plus d'un but. Et c'est une équipe qui est très solide. C'est l'équipe d'Arne Slot l'année dernière. Mm-hmm. Mais surtout, ça sanctionne la débâcle du Milan depuis quelques mois. Ils ont changé d'entraîneur. Le recrutement, il est catastrophique. Là, je suis désolé, mais l'attitude de Théo Hernandez, cette saison, il est catastrophique dans l'attitude. Il y avait déjà eu un problème avec Fonseca quand il ne voulait pas sortir. Fonseca faisait son discours pendant le match d'un côté et il restait avec Leao, Théo Hernandez, de l'autre côté à discuter. C'est pas sérieux. Là, l'action qu'il fait quand il fait une simulation qui est grossière, on est dans un football où il y a la VAR, il y a la vidéo. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est scandaleux, en fait.
Mais on en parle depuis le début de saison. Il y a un problème Théo Hernandez cette année. En équipe de France, on s'en souvient.
Un problème de couleur de cheveux, peut-être.
Bah, malheureusement. On y reviendra.
Pas qu'esthétique.
On y reviendra sur ce débat. Merci beaucoup, Matteo Cioffi, d'avoir été en direct dans Radio Foot International. À très bientôt. À vous, on vous dit arrivederci.
Courage.
Merci,
courage.
Merci à vous.
Il n'en reste plus qu'un. La prochaine émission, il n'en restera
bonne
plus.
Bonne soirée. Et que le catch soit avec vous.
Merci, Matteo. Avant le chapitre foot français en crise, quelques notes de musique sénégalaise d'Orchestra Baobab avec Bouledène. Donc sur la playlist de RFI, mais nous allons plonger, nous, dans les affres du foot français.
Pour la première fois, sous nos yeux, les coulisses d'une réunion organisée en urgence entre les principaux dirigeants du football français, celle qui, le 14 juillet dernier, décide des droits télé. Sur cette vidéo exclusive que les équipes de complément d'enquête se sont procurées, les patrons de clubs en pleine crise, réunis pour trancher. Quelle chaîne pour diffuser les matchs de Ligue 1.
Le ton est donné. Alors ça, c'est nos confrères de France 2, la chaîne de service public, qui préparent un reportage sur ce grand déballage qui commence dans le football français, qui, à nouveau, vit des soubresauts d'une crise dans laquelle il est émergé depuis des mois, si ce n'est même des années. Le diffuseur officiel du championnat, on vous en a parlé vendredi, DAZN ne veut plus payer, d'ailleurs il n'a pas payé la moitié de la somme qu'il devait. Il commence à intenter un procès à la Ligue en réclamant une somme faramineuse de 573 millions d'euros, en gros, pour, comment on dit, pour dommages, hein,
oui,
pour dommages, des dommages et intérêts. Oui, il y a ça, notamment. En tout cas, le diffuseur officiel donc d'Azone est prêt à tourner les talons. Alors, j'imagine, on va entendre des extraits des échanges. Il y a eu une réunion très importante le 14 juillet dernier entre les présidents. Mais Jean-Philippe Bouchard, si ces enregistrements sortent, si ces enquêtes sortent, il y a un très grand... il y a un feuilleton, on va dire même, dans le quotidien,
ouais, l'équipe,
l'équipe et notamment grâce à Étienne Moati, que vous connaissez ici. C'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a tellement le feu à la maison que des propos qui auraient peut-être pas été importants le 15 juillet, là, tout d'un coup, ont une autre couleur.
Ça fait plusieurs années que le foot français, les clubs français sont aux abois parce qu'ils sont télédépendants, droit télédépendants. C'est-à-dire que c'est un pays où 70%, entre 70 et 80% du budget d'un club dépend des droits télé. Et dans d'autres pays européens...
Plus le club est petit, surtout.
Voilà, c'est ça. Surtout, et d'autres pays européens, c'est pas... à ce point-là. Donc les clubs français sont complètement dépendants de ça. Or, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a atteint un étiage, un sommet en matière de droits télé. Ça s'est stabilisé. Or, en France, ça a tendance à baisser tendanciellement. Donc la Ligue a eu recours à des expédients. Donc on a déjà abordé ça ici. Elle a cédé une partie de son capital à un fonds d'investissement américain. Elle essaye de séquencer l'offre de championnat le plus possible.
Ça pour qu'il y ait plusieurs diffuseurs.
Pour faire rentrer de la concurrence et des diffuseurs. Parce que le prix facial du championnat de France serait sans doute beaucoup plus bas si on n'utilisait pas de tous ces artifices.
Parce qu'ils sont brouillés aussi avec le diffuseur historique.
Erreur historique, elle s'est brouillée avec Canal,
soi-disant.
Qui avait intérêt à développer le football français. Ça a été la politique de Canal pendant des années, c'était de développer son spectacle, parce qu'elle vendait un spectacle. Aujourd'hui, on a des opérateurs qui sont des grosses boîtes internationales et qui valorisent pas le contenu. Ils considèrent que c'est pas leur boulot.
Ils veulent juste l'argent.
Voilà, ils veulent juste un produit rentable. Et donc là, aujourd'hui, on en arrive au nom d'oiseau parce que les clubs français qui sont aux abois, sont pas plus tous d'accord entre eux, en fait.
Alors, on va l'écouter. Un extrait de ces noms d'oiseaux et surtout c'est donc le moment où on va attribuer ces droits à DAZN et aussi à beIN Sports. Alors beIN Sports, le Qatarien Nasser El Khelaifi, qui est président du club du Paris Saint-Germain, il a longtemps été dirigeant de cette chaîne de sport qui est financée par le Qatar, et lui en plus il est président des clubs européens, on le sait, ELECA. Et alors voilà l'échange un peu viril entre l'Américain propriétaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor, qui rentre dans le jeu en ce moment, puisqu'il lui aussi est dans le jeu. Et puis Nasser, on vous l'a laissé en langue originale dans le texte.
We're running out of time. Maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully.
John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo,
right.
You're coming, I don't
I'm
know
an
where.
Outsider.
And you're talking
I'm
to
idiot.
Us.
I don't understand it. Anything.
Vincent, Jean-Pierre.
Alors on a John Textor qui dit, si nous manquons de temps de cette réunion, qui dure déjà depuis 2 heures, peut-être qu'un autre président que Nasser pourrait parler. Nasser, tu es un tyran. Alors c'est ça le premier nom d'oiseau, Jean-Philippe. Alors l'autre, on l'entend, John, arrête de parler, tu ne comprends rien, tu viens de je ne sais où, cow-boy, et tu nous parles. Alors Textor dira, non, je suis un étranger, je suis un idiot, je comprends, mais en gros, si je fais pas de chèque, on s'intéresse pas à moi.
C'est génial. Moi, je trouve ça génial, en fait.
Et
en
fait,
la Ligue qui cherche de l'argent pour financer son football, mais elle devrait lancer une série Netflix, en fait, et se filmer 24 heures sur 24, comme la Formule 1. Ça serait génial d'avoir tous ces détails avec les images où ils s'insultent les uns les autres.
Là, je pense que la prochaine visio...
C'est extraordinaire. Là, il n'y aurait pas de streaming pirate, là. Tout le monde s'abonnera à Netflix pour voir cette série, parce que c'est exceptionnel, en fait. C'est les pieds niqués.
C'est exactement ce que je pensais. Je me suis dit, en écoutant... J'avais déjà vu l'extrait, j'ai lu le papier dans l'équipe où tout est retranscrit. Et encore
alors là, c'est un extrait d'une enquête télé à venir.
Là, c'est
non, mais quand
c'est une
on
enquête
les voit
qu'il y a dans le journal,
tous...
mais qui est absolument incroyable. Mais c'est un autre monde. Et je pensais ça, je me suis dit, mais en fait, l'argent, il est là. Il n'y a aucun souci.
Ils ne savaient pas que le Clarus site de cette Ligue 1, c'était eux.
C'est eux, c'est pas le football.
C'est les présidents, c'est pas le foot, c'est pas les stars, c'est pas les joueurs, c'est eux.
Là, il y a déjà 2 heures, donc ça vous fait au moins 3 ou 4 épisodes. Plus ce qui est avant, vous en rajoutez 3, ce qui est après 3, et puis la saison 2, parce qu'il va se passer d'autres choses. c'est génial. Bon, honnêtement, ils ont tout compris, nos présidents.
Alors, on est ironique, mais l'heure est grave, en fait, pour les clubs français.
L'heure est plus que grave. Il y a des clubs. Imaginons un club comme Angers, par exemple. Ils ont eu du retard sur les paiements. Plus une prime, quel que soit le résultat. Donc, ça devient très compliqué.
Des salaires en retard.
Ah oui, salaires en retard. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des clubs qui ne sont pas sûrs d'aller jusqu'au bout de la saison à partir du moment où ils ne prennent pas l'argent de DAZN. Alors, ce qu'elle va faire la Ligue, visiblement, c'est que sur
elle
son fonds propre,
apparemment, pour
elle
l'instant.
Va commencer à donner l'argent qu'elle n'a pas donné DAZN. Enfin, DAZN réclame 573 millions. Enfin, moi, j'y connais rien. Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, quand je dis j'y connais rien, je ne sais pas
en
quelle
gros,
est la chance de gagner quelque chose.
Qu'on leur donne
toujours dit
rien.
Que, imaginons qu'ils perdent même que la Ligue perde un procès contre DAZN pour beaucoup de raisons. Parce qu'on ne sait jamais. Quand il y a procès, on ne sait pas qui va gagner.
C'est d'autant plus grave.
Attention. On peut se retrouver dans une des difficultés encore plus grandes.
C'est d'autant
pire
plus
que
grave.
Mediapro, on n'y aurait jamais cru.
Ah oui,
Mediapro, ouais. Le diffuseur espagnol, parti après le confinement.
C'est d'autant plus grave parce que les personnes qu'on entend parler dans cette vidéo, enfin cet audio, c'est à la base des chefs d'entreprise. Ce qu'ils sont en train de faire là au sein de la Ligue, ils ne toléraient absolument pas dans leur entreprise. La légèreté qu'on entend dans les débats sur la gestion des droits télé, c'est scandaleux. Au-delà du mépris personnel de Nasser vis-à-vis de John Dexter, parce que c'est limite du racisme, hein, ce qu'il dit sur le cow-boy.
Incroyable.
Mais,
surtout
mais
que
incroyable,
John Dexter,
la légèreté de la gestion des clubs, en fait.
De beaucoup de choses, mais ce qu'il a fait, par exemple, au Brésil, avec son club,
non,
qui a
plus,
gagné
clubs,
une espèce de Ligue des Champions, et qui est champion du Brésil.
Les présidents de clubs ne sont pas intéressés, ils ont laissé faire la brune, le président de la Ligue, en disant il va nous rapporter de l'argent, bon, très bien. Mais un des seuls qui s'intéresse, le président de Lens, là, parce qu'il manie.
On n'a pas mis cet extrait, mais il se fait aussi bien recadrer.
Et lui est dans l'opposition, clair, mais c'est le seul à avoir vraiment.
À oser.
Sinon, tous les autres, ils sont couchés.
Alors, on ne sait pas exactement.
Ils ont
parce
tous réélu la brune,
sont...
ça, c'est une certitude.
Bien sûr.
C'est ça, déjà, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, parce que là, on nous donne des extraits. On a, sur 2 heures, vous imaginez, ça ferait des pages et des pages. Donc, il y a peut-être eu d'autres choses de dites. Ouais. Peut-être qu'on les verra. Mais oui, on ne sait jamais. Donc, c'est génial. C'est un peu Mediapart. On ne sait jamais. Tous les jours, vous aurez une petite chose de plus.
C'est fou, la gestion des clubs. Et de toute façon, les clubs, je suis désolé, ils ne peuvent pas être uniquement dépendants des droits télé. C'est pas possible. Les clubs anglais, par exemple, qui ont beaucoup plus de droits télé, ils ont 4 fois plus de droits télé qu'en ouais. France, mais maintenant...
Ils ont d'autres revenus.
Ils ont plus qu'un milliard.
Et ils axent sur les autres revenus pour être sûrs de financer leurs
clubs. Mais comment est-ce possible d'avoir aussi peu sur la Ligue 1 quand vous pensez que les Allemands prennent 1 milliard ? Parce que la Ligue 1, c'est quand même pas un mauvais championnat. Il y a des résultats. Vous avez 1 ou 2 clubs emblématiques, on va dire. Allez, au moins un, qui est le Paris Saint-Germain aujourd'hui.
Il y a des entraîneurs connus.
Et d'un seul coup, vous savez pas vendre votre produit. Il y a bien un défaut dans le
virage. Hervé, quand tu étais avec Canal, t'avais 6 à 7 millions de spectateurs potentiels, abonnés, hein, qui pouvaient voir le match. Après, tu commences à diviser par 2.
Les audiences étaient plus autour de 2 millions.
Oui,
mais c'est ça qui est important.
Là, on divise par 4.
Potentiel de gens qui sont d'accord pour payer et avoir du foot dans leur offre.
Parce qu'ils avaient un bouquet d'offres.
Et avoir du foot dans leur offre.
Ensuite,
quand tu passes à Amazon ces dernières années, là, on arrive presque à 1 million déjà. Donc, on réduit l'offre, on dégrade encore. Et maintenant, apparemment, les chiffres qui circulent pour DAZN, on est à moins de 500 000. Donc, finalement, l'exposition du championnat
demande
1,5 million par 10
et ils veulent 1,5 million.
Et c'est le problème.
Et donc on dégrade le produit.
Le produit. Les gens ne s'intéressent plus en fait.
Bah oui.
Philippe Doucet nous disait, c'est un feuilleton.
La Formule 1 est passée par là.
Ils s'intéressent plus parce que la Formule 1 a eu un renouveau parce qu'elle était filmée. On parle de Netflix, mais c'est ça. La série a relancé la Formule 1. Mais aussi parce que le traitement médiatique du football en France, il est catastrophique à un moment donné. Faut être honnête aussi. Quand vous payez ou quand vous demandez aux gens de payer 40 euros. Pour ce qu'on nous produit à la télévision, vous regardez...
Avec des commentaires faits de Paris pour un match à Saint-Étienne ou Marseille.
En comparaison, le foot anglais, la Première Ligue, ne serait-ce que la Bundesliga, la manière dont c'est filmé, dont c'est traité, mais à un moment donné, il ne faut pas s'étonner. Et je suis d'accord, les droits télé de la Bundesliga à l'Italie, on est autour d'un milliard. Là, on est à 400 millions, 500 millions en France.
Et c'est la zone aussi.
Il y a un problème.
Et c'est le même diffuseur.
Il y a un problème.
Donc, il y a un vrai problème et nous continuerons à être au chevet, malheureusement, de ce football français. Ah, je pense que Hervé a des infos, mais il nous dira ça en sortant du studio. Merci à tous.